année. Et puis, Lise et moi, on est mariés depuis 51 ans. Impossible d'être pasteur pendant toutes ces années-là, à moins d'avoir une femme extraordinaire. Hein?
Bon.
Impossible.
Bien, moi, vu que je suis en avant, j'en profite pour remercier. C'est trop fort, là, non? En tout cas, pour remercier l'équipe de la louange aussi. Je l'ai déjà fait individuellement, mais des fois, je ne peux pas tout le temps. Parce que toute l'équipe, mais spécialement les personnes qui ont fait la recherche pour que ça soit avec le thème de l'espérance. On nous l'avait dit et ont tenu leur promesse ou leur engagement. Moi, je l'apprécie beaucoup. Je veux juste dire aussi que par expérience, en 52 ans de vie chrétienne, j'ai appris par expérience que le bonheur, c'est d'être là où Dieu veut qu'on soit. Et je suis ici, nous sommes ici, je suis heureuse et je pense que vous êtes heureux d'être et heureuse d'être ici parce que le Seigneur, il est parmi nous, il voit sa famille réunie. Alors, le bonheur, il est ici.
Oui, c'est bon de voir des frères, des sœurs réunis ensemble après 2000 ans, là, hein? Ça fait 2000 ans que ça dure. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a encore un autre 2000? Pas sûr. Et juste pour notre thème, là, quand j'étais jeune, je me souviens d'avoir appris le catéchisme. Est-ce qu'il y en a qui... Oui? Ah, c'est
on
bon!
On n'est pas si vieux.
Ça fait 50 ans de ça, là. J'étais au primaire, là. Alors... Et il y a une des questions dans le catéchisme. Quelles sont les trois vertus théologales? Ça vous dit quelque chose, les vertus théologales? Oui, Benoît.
L'amour, la foi et l'espérance.
Hey! quelle mémoire, hein? Non, il n'est pas dans le bon ordre. Mais...
Bon. Oui, la foi, l'espérance, la charité, ouais, c'est ça, oui.
C'est les anciens, là, qui... Oui, on a ça dans 1 Corinthiens 13, là, c'est un verset qui est très connu, la foi, l'espérance et l'amour. Et en 50 ans, là, j'ai prêché pendant 50 ans, j'ai enseigné pendant 50 ans, des fois, plusieurs fois par semaine, jamais je n'ai prêché sur l'espérance comme thème principal, là. Beaucoup de sujets, l'amour, la foi... Ça, j'ai regardé dans mes archives, il y en a plein. Mais quand j'ai cherché sur l'espérance, zéro. Ça, c'est... Je vais avoir des comptes à rendre, hein? Quand on... C'est sûr qu'on parle toujours de l'espérance, mais de l'avoir comme thème. Alors, une vertu, c'est quoi une vertu? Une vertu, ça veut dire quelque chose? C'est un terme religieux, hein? Mm-hmm. Une vertu, c'est quelque chose qui est essentiel à la vie, puis c'est quelqu'un qui a un vertueux, là, c'est quelqu'un qui a un penchant pour le bien, un penchant pour faire le bien, vouloir le bien. Le contraire de vertueux, c'est vicieux. Vicieux, c'est quelqu'un qui a un penchant pour faire le mal, qui désire faire le mal. Alors, une vertu théologal, ça veut dire que ça vient de Dieu. Hein? On a été créé comme ça. Dieu nous a donné un corps avec des membres. Et puis, il nous a donné une âme avec la capacité de croire, d'espérer, puis d'aimer. C'est les membres de notre âme, si on peut dire, de notre être humain. Dieu a créé l'être humain avec ses facultés-là. Et on a tous besoin de croire, d'aimer et d'espérer. N'est-ce pas, Lise?
Mm-hmm. Oui.
Oh, oui. J'ai oublié d'avancer. Là.
Oui.
Ah, ça, c'est le catéchisme.
Le catéchisme.
Avec les trois vertus théologales.
Oui, la réponse. La réponse, oui. OK. Alors, quelqu'un a dit qu'on peut vivre 40 jours sans nourriture, 8 jours sans eau, 4 minutes sans air, sans respirer, mais à peine quelques secondes sans espoir, sans espérer en quelqu'un ou en quelque chose. Alors, c'est quelqu'un qui a dit ça. Et malheureusement, au Québec, on se débrouille bien sans Dieu. Hein? On voit ça assez régulièrement. On se débrouille bien, on veut réussir. Hein? Et si je performe assez, si je mets beaucoup d'énergie, de temps, et ce qui ça a donné comme résultat, c'est que cette tour de Bébel, là, hein? La tour de Bébel, plus on accumule, hein? Et plus on pense qu'on va être, heureux. Hein? Ça comble le vide qu'on a dans le cœur. La tour de Bébel. On dit, sans Dieu, je suis capable. Et on dit que ça, c'est en général au Québec. Mais moi, quand j'étais jeune, j'ai entendu un proverbe qui n'est pas biblique. Il n'est pas dans le proverbe dans la Bible. C'est « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Il y en a qui ont entendu ça peut-être, ou c'était juste dans mon coin, dans Drummondville. « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Et moi, quand je suis devenue chrétienne et que j'entendais quelqu'un prier « Seigneur, sans toi, on ne peut pas rien faire ». Mais là, dans ma tête, je ne le disais pas, là, c'est pas spirituel de penser ça. Mais dans ma tête, c'était « ben oui, mais, tu sais, Lise, let's go, tu es capable hein? ». Et ça a fait que j'ai dû apprendre... Si je n'ai pas appris par obéissance dans la parole, j'ai appris par expérience. Et souvent, c'est plus douloureux, hein? Obéir par expérience de vivre ça. Alors, à un moment donné, je suis arrivée à un point dans ma vie, à une conférence du district où il y avait un chrétien de l'armée du salut. Et il avait apporté un message. Et moi, je ne savais pas, là, mais c'était très bon. Mais à la fin, il demande aux personnes de s'avancer si vous voulez recevoir une parole d'encouragement. Et j'étais dans un temps où, justement, je me débrouillais un peu sans Dieu. Je donnais beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Je le faisais par amour. Mais, tu sais, alors... Là, j'avançais, puis je disais, « Seigneur, il ne me connaît pas, mais ça me prend cette parole-là de toi. » Et je lui ai dit juste quelques mots. Il dit, « Ne prends pas sur tes épaules ce qui appartient au Seigneur. » Ouh, là, ça a changé, je m'en souviens encore. Je me souviens de l'allée, et là, ça a changé. Le « Aide-toi et le ciel t'aidera » a vraiment disparu. Vraiment, il a été... Vraiment. Et le malin n'avait pas d'emprise là-dessus, mais je dois renouveler ça. Et ce verset-là, vraiment, encore dernièrement, me parle beaucoup. J'en ai besoin. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. C'est ce qu'on veut, hein? Porter du fruit jusqu'à notre mort? Oui. Car... porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, de faire quoi que ce soit, à genoux, Lise, et « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que tu es d'accord avec ça? » Alors,
On ne peut pas vivre... On peut pas vivre sans espérer. OK? Impossible de vivre sans espérer. Et il y a un psychobiologiste de l'Institut Harvard, mais il y a 50 ans. C'est une vieille expérience. Il a fait une expérience sur les rats. On savait que les rats ont cette capacité physique-là de nager, de flotter sur l'eau, de nager sur l'eau pendant 50 heures, 2 jours de temps. Tu les mets dans une rivière, là, et puis ils peuvent nager sur l'eau pendant 48 heures, jusqu'à l'épuisement total de leurs forces. Mais lui, M. Richter, il les a placés dans un bocal. Petit bocal, fermé, il n'était pas capable de sortir, il beau gratter tout ce qu'il voulait faire, impossible de sortir. Savez-vous combien de temps le rat pouvait endurer? Maximum 1 heure. La plupart en 10 minutes. 10 minutes. Désespoir total, il se laissait couler. Il a continué l'expérience. lorsque le rat avait coulé, il sortait juste avant sa mort. Puis là, ben il
change.
Oui. Mm-hmm. Ben oui. Alors, il flattait, puis le rat se reposait comme il faut. Et puis, il le remettait dans le bocal, le même bocal. Savez-vous combien de temps? Il nageait, il nageait, il nageait, il nageait. 60 heures. 60 heures de temps à nager dans le bocal. Pourquoi?
La conclusion.
Ouais, la conclusion de l'expérience, c'est un petit peu différent, un petit peu d'espérance. Waouh, hein? Ça fait toute la différence. Un petit peu d'espérance, ça fait tout. Est-ce qu'on manque d'espérance? Est-ce qu'il y en a qui peuvent s'identifier au rat dans le bocal, là? Hein? Vivre sur la terre ici, non? Ça peut ressembler à ça des fois. Et où notre espoir? Hein? Qu'est-ce que j'espère? Qu'est-ce que tu espères, mon frère, ma soeur? C'est quoi t'espères, là, dans la vie? Il y a des très bonnes choses à espérer, hein? Est-ce que vous avez des idées de des bonnes choses à espérer? Est-ce que c'est légitime d'espérer? Le bonheur de nos enfants. Est-ce que c'est une bonne chose? Espérer? Oui. Hein? Pardon?
Leur salut.
Leur salut, salut. Oui.
Ouais, ouais, ouais.
Oui, la famille, les amis, un bon travail. Hein? Ceux qui arrivent ici, là, d'être capables de s'intégrer dans la société, c'est des attentes tout à fait légitimes. Hein? Le succès, la sécurité. On vit dans un pays où, bon, on n'a pas de guerre encore, mais on a besoin, on a vraiment besoin. De ces... Oui, Loulou?
Espérer en Dieu.
Espérer en Dieu. Oui, finalement, c'est ça. Mais toutes ces choses-là, on peut être motivé là, dans la vie pour acquérir ces choses-là. Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, pour gagner ma santé, pour gagner mes enfants, pour gagner... un bon salaire, qu'est-ce que je peux faire? Hein? C'est ça, c'est notre motivation. Et toute notre énergie, toutes nos ressources, c'est ça qui vont nous donner la paix, la joie, le bonheur. Pas d'espoir, ça tue.
On change.
Ouais. Le désespoir, ça tue. Probablement que le manque d'espoir, c'est à l'origine de beaucoup, beaucoup, beaucoup de maladies physiques et de troubles mentaux aussi. Les maladies mentales sont causées par la personne qui est désespérée, là, un désespéré, il est prêt à tout faire pour en finir, il peut se tuer ou il va tuer tout le monde autour. Il n'y a plus rien à perdre. Ça, c'est fréquent, on entend ça, un désespéré. Tandis que l'espoir, ça fait quoi? Le contraire. L'espoir, ça donne la vie. Hein? Ça fait vivre. On vit d'espoir. N'est-ce pas, Lise?
Oui, Michel. Alors, un exemple de quelqu'un qui a vécu là, dans l'espoir pendant des jours que ça arrive, là, c'est une maman qui dit un jour à sa petite-fille, ça y est, en fin de semaine, on va au cirque. Et elle savait que sa petite fille en rêvait, là. Youhou! Ça fait un petit bout de temps. Elle dit, j'ai les billets, là. Regarde, j'ai les billets. C'est pas là, je parle pas à travers mon chapeau. Et on va au cirque. Et la réaction de la petite fille, c'est, OK, c'est correct. Ben oui, OK, c'est bien. Non, non, elle était folle de joie. Elle disait ça à tout le monde. Elle était vraiment là, dans l'excitation suprême. Alors, parce qu'elle pouvait faire confiance à sa maman. Elle faisait confiance à la parole de sa maman. Je peux lui faire confiance. Ce qu'elle dit, elle va le faire. Et ça, c'est important, hein, qu'on fasse qu'est-ce qu'on dit. Et est-ce qu'on peut s'imaginer aussi... Si une une simple parole humaine ou une promesse humaine peut produire autant d'excitation, d'espoir, hein, à plus forte raison, la parole de Dieu et les promesses de Dieu devraient nous exciter, nous faire ressentir l'allégresse, la joie, parce qu'on a sa parole, on a ses promesses. On peut lui faire confiance.
Imaginez, là, vous êtes crucifié, vous êtes sur la croix, comme le larron, le bandit, qui était condamné à mort.
On change.
Et qui, un criminel condamné à mort. C'était quoi son espoir? Pas drôle, la vie, là. Hein? Crucifié, ça fait mal, là. C'est un des pires supplices que les Romains pouvaient faire endurer aux bandits. Alors là, il est crucifié sur la croix, il souffre énormément, il n'y a aucun espoir humainement. Et il confesse, hein, il avoue, il dit à l'autre bandit, nous autres, on le mérite, là, mais pas lui, pas Jésus. Et il fait profession de foi en Jésus. Puis, il demande à Jésus, « Souviens-toi de moi. Hein? » Et quelle est la réponse de Jésus? La parole de Jésus, la promesse de Jésus? En vérité, je te le dis, quand il dit « en vérité », là, c'est la vérité. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Est-ce qu'on peut s'imaginer... qu'est-ce qui se passe là, dans le cœur de ce larron, de ce bandit-là? Est-ce que sa situation a changé?
Oui.
Non. Crucifié, sa situation n'a pas changé. Qu'est-ce qui a changé? Son cœur. Son cœur a changé. Sa perspective de la vie, de la mort, elle a changé. Une parole de Jésus, puis a été... je pourrais dire, il a sauté de joie sur la croix. On peut-tu dire ça? Hey, je m'en vais au paradis. Peu importe ce que je peux endurer ici, là, ça n'a pas de poids. Hein? C'est rien à comparer à ce qui s'en vient dans quelques heures. Là. Lui, il était chanceux, entre guillemets. Son espérance a duré quelques heures, peut-être quelques minutes. Mais nous, on doit vivre dans cette espérance-là. Hein?
Mm-hmm.
Qu'est-ce que la parole de Jésus produit en moi? Ça, c'est la question. Les promesses que Jésus a dites, qui sont écrites dans la parole de Dieu, quel effet ça produit dans mon cœur? Comment ça change ma perspective de ce que je vis? Hein? Lise et moi, on vit des choses... difficile, en tout cas inquiétant, il y a beaucoup d'inquiétudes. Mais qu'est-ce qui nous donne la vie, là? C'est qu'est-ce que Jésus a dit? Plein de versets qui nous reviennent. Hein? Un en particulier, là, c'est « Déchargez-vous sur moi de tous vos
soucis. »
Est-ce qu'il y en a qui ont des soucis? Il n'y en a pas, OK. Car lui-même prend soin de nous.
Et de vous.
Wow! Est-ce que notre situation a changé? Pas sur le moment, mais notre espérance, notre cœur, notre perspective, elle change. Ça change toute la perspective. Hein? Il y a ce verset-là qui est bien connu.
Mm-hmm.
Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Jésus, en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Tu vis sur cette terre en espérant ce que les autres êtres humains espèrent, puis tu es chrétien, tu vas être le plus malheureux sur la terre. Hein? Alors, la bonne question, c'est dans quel état mon cœur est ce matin? Est-ce que, comme le larron, je peux sauter de joie au milieu d'une épreuve? Tu vis une épreuve, mon frère, ma sœur, hein? C'est difficile. Tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Il n'y a pas de moyen humain, peut-être. Tu es désespéré. Et tu cries au Seigneur. Hein? Mais ce qu'on dit ce matin, c'est que tu peux sauter de joie au milieu de cette épreuve-là. Mais ça, c'est un miracle. Ce n'est pas humain. Humainement, là, non. Les êtres humains normaux, ils n'ont pas ça. Mais un chrétien né de nouveau, qui est aimé de Dieu, il a ça. On peut faire un miracle. On peut souhaiter guérir des corps, puis c'est miraculeux, c'est extraordinaire. Mais guérir une âme, ça dure pour l'éternité. Il est là le miracle. Guérir mon âme, avoir cette espérance-là, avoir cet espoir-là, au milieu de situations qui sont désespérées, ça, c'est un miracle. Qui veut faire un miracle? Il n'a pas? OK. Ouais. Hein? Regardez, 1 Pierre 1:3. Je vais me retourner parce que je ne vois pas bien.
Ah.
C'est là ce qui fait votre joie. Qu'est-ce qui fait ma joie? Notre joie, là, ce matin, à chacun d'entre nous, qu'est-ce qui fait notre joie? Quoique maintenant, puisqu'il le faut, nous soyons attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, on est en train d'être éprouvée, notre foi est éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu détruit les mauvaises choses dans notre vie, l'épreuve, ça détruit les mauvaises choses dans notre vie, se trouve être un sujet de... l'épreuve de votre foi se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. C'est Pierre qui dit ça, là. Pierre l'avait vu, lui. Il a passé 3 ans avec lui. Il connaissait, il avait entendu, il a vu tout ce qu'il pouvait faire. Mais il écrit aux chrétiens, mais vous autres, vous ne l'avez pas vu. Hein? Comme nous. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Sans le voir encore, vous croyez en lui. Qui a vu Jésus, là? On ne l'a pas vu. Mais, et vous réjouissez d'une joie merveilleuse et glorieuse. Je pense qu'il n'y avait pas de mots. Même en grec, il n'y avait pas de mots pour décrire la joie. En remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Est-ce qu'il y a des gens qui ont le salut de leur âme ici, là? Hein? Alors, réjouissons-nous, mes frères.
Louise.
Laisse faire les épreuves, laisse faire les difficultés, hein, à comparer à ce qui s'en vient, là, vaut pas la peine. Hein? Alors, l'espoir dans le futur, ça produit la joie, la patience. Pas d'espoir dans le futur, qu'est-ce que ça produit? De l'inquiétude, de l'angoisse, de l'anxiété, du découragement. On est empoisonné littéralement par la peur, par le désespoir. C'est un poison. Alors, quand ça vient, ces peurs-là, ces inquiétudes-là, qui sont tout à fait naturelles, là, hein, c'est normal, mais c'est qu'est-ce que je fais avec ça? Là, tu dis stop. Je chasse ce mauvais esprit de peur-là, d'inquiétude qui ronge ma vie, hein, qui me hante. Je chasse cette inquiétude-là et je reçois la paix de Dieu. Puis tant que ça n'arrive pas, là, tu continues. Au lieu de t'inquiéter, là, passer ta nuit à t'inquiéter, passe ta nuit à dire stop. Je chasse ce mauvais esprit-là dans le nom puissant de Jésus jusqu'à temps que la paix de Dieu, tu vas voir la paix de Dieu va venir. Au milieu de la crucifixion, au milieu de l'épreuve.
Une autre histoire, vous êtes prêts? Une autre histoire. Hein? Dans mon groupe maison, ils connaissent ça. Lise et ses histoires. Alors, c'est l'histoire de... Ben, c'est un navire dans les îles du Pacifique qui a coulé. Et il y a eu un survivant.
et qui s'est retrouvé sur une île déserte, alors en plein milieu du Pacifique, et cette île-là. Et son premier réflexe de survie, c'est de se construire un abri. Hein? C'était assez sage. Et avec les débris qu'il pouvait ramasser, avec ce qu'il y avait sur l'île, il a travaillé fort et tout ça. Mais après, une fois que son instinct de survie là, a été satisfait, là, à quoi il passait son temps? Il regardait à l'horizon, vers la mer. Son seul espoir, c'était de voir un bateau qui verrait son signal au secours, hein, SOS. Et toute la journée, les trois quarts du temps, c'est ça, son espoir était de voir un bateau qu'il ramènerait dans sa famille avec ceux qu'il aime. Mais à sa place, là, si ça m'arrivait, là, c'est ça, hein, on met notre espoir. Mais malheureusement, il y a eu une autre tempête sur l'île. Et un éclair a frappé son abri et l'abri a pris en feu, a tout détruit. En quelques secondes, tous ses efforts ont été anéantis. Et là, je pense qu'il était vraiment désespéré. C'était normal, il était désespéré. Son espoir, là, d'attendre que le bateau, puis là, plus rien pour t'abriter. Et il était découragé, il attendait la mort. Il est allé s'asseoir sur le bord du rivage, découragé. Il n'y a pas d'espoir pour moi ici, là. Il n'y a pas personne pour l'encourager, hein? Alors, il est désespéré. Et épuisé, parce que les pensées négatives, ça épuise, hein? Les épreuves, ça épuise, ça prend beaucoup d'énergie, on le sait. Et il s'endort de fatigue, d'épuisement. Il s'endort. Mais tout à coup, il se réveille. Il pense qu'il est en plein milieu d'un rêve. Il voit des personnes penchées sur lui. Hein? Et monsieur, monsieur! Non, il est bien, il touche, là. C'est, monsieur, monsieur, on a vu votre signal de secours. On a vu le signal de la fumée pour nous avertir que vous êtes ici. On est venu vous sauver. Alors, c'est sûr que là, son salut dépendait de quelqu'un qui le voit son signal. Et moi, ce qui me revient souvent ces temps-ci, dans les bons et les mauvais jours, c'est d'entendre Jésus dire, « Lise, je te vois, je t'entends. Je te vois, je t'entends. » Et quand Dieu nous entend et qu'il entend nos prières, est-ce qu'il répond toujours? C'est la question que je me suis posée, moi, jeune chrétienne, et que j'ai posée dans ma classe d'école du dimanche un jour. Je voulais savoir si les enfants pensaient que Dieu répond. Est-ce que Dieu répond toujours à la prière? Et les réponses étaient variées. Parce que si quelqu'un avait demandé un vélo, je trouvais ça normal qu'il dise, puis qu'il ne l'a pas. Je trouvais ça normal qu'il dise, bien, pas sûr, là, qu'il répond toujours. Alors, et là, moi, j'avais une réponse simple. Est-ce que Dieu répond toujours à la prière? Je disais, des fois, il dit oui. Des fois, il dit non. Des fois, il dit, attends un petit peu. Attends un petit peu. Mais quand j'ai fait je suis entrée dans l'étude du Notre Père. Il y avait une étude et c'est sûr que ça m'a interpellée parce que je trouvais que c'était mieux formulé que ma réponse. je vais avoir de la misère à aller peut-être. Alors, il y a trois réponses possibles aux prières que nous faisons. Est-ce qu'on est prêt à ces trois réponses-là? Dieu peut dire, attends. Il y a des choses que tu ne peux pas connaître. « Reste calme et fais-moi confiance. » Ça, c'est dans l'attente. Sois patiente. Hein? La deuxième réponse qu'on peut recevoir du Dieu merveilleux, c'est « Bien sûr, j'ai entendu ta prière et la réponse est en route. » Bon, c'est sûr que c'est notre préféré, mais avec l'expérience, avec les années, je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi que des fois, c'est mieux que Dieu ne réponde pas oui à notre prière. On peut compter sur sa sagesse. Troisième réponse de Dieu, c'est non. Mes desseins sont plus vastes que ce que tu vois pour le moment. Le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu merveilleux qui nous a créés et qui a créé cette terre parce qu'il nous aime, il dit « Mes desseins sont plus vastes que ce que tu vois pour le moment. » Est-ce que je peux lui faire confiance? Oui, je peux lui faire confiance. Je peux croire en ses promesses. C'est un Dieu fidèle.
Alors, tout est dans « En qui j'espère? » En qui j'espère? Si j'espère en moi-même, je dois tout contrôler, là. Il n'y a pas de paix possible si je n'ai pas le contrôle. Si j'espère dans les moyens humains, bien, je vais avoir des résultats humains. Mais si j'espère en Dieu, je vais avoir des résultats divins. Hein? Depuis qu'on est ici, dans l'ouest de l'île, j'ai eu des problèmes de plomberie, des problèmes d'électricité, toutes sortes de problèmes dans la maison. Et de la minute que il y avait un nom dans ma tête là, qui venait, hein, J.C. Jean-Claude. Et là, quand Jean-Claude il prenait les choses en main, il avait la paix. Mm-hmm. Il n'est pas parfait, là. Hein? Mais...
Il est fiable.
Fiable, il avait un bon espoir.
Honnête.
Hein? Ouais. Il avait l'expérience, il était capable. On pouvait avoir une certaine paix, une certaine patience, parce que ce problème-là que j'avais aucun moyen de régler par moi-même, je ne connaissais personne d'autre, faire affaire avec un étranger. Alors, as-tu un problème dans ta vie? Qui est-ce qu'on appelle? J.C. Jésus-Christ. Hein? Là, tu as un espoir qui est parfait, tu as une paix parfaite, tu as une patience surhumaine. Alors, on va tous avoir une dernière épreuve, hein? C'est quoi la dernière épreuve qu'on va affronter? La mort. Hein? Est-ce que Jésus a affronté la mort? Il y a eu des angoisses. Il n'a pas dit « Ah, je m'en vais me faire crucifier, je suis le Fils de Dieu. » Non, non. C'était pas ça, hein? Il y a des larmes du sang qui a coulé. De ses sueurs, tellement il était angoissé. Et qu'est-ce qu'il a crié? Un psaume que David avait écrit, hein? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il savait très bien pourquoi. Mais il avait besoin d'exprimer son inquiétude. Hein? On a besoin, il y a des moments comme ça, on peut crier à Dieu, être vrai, puis dire « Seigneur, t'es où? T'es où, Seigneur? Qu'est-ce que tu fais? Hein? » On va tous passer par là. Hein? Le salaire du péché, c'est la mort. On va tous y passer. Et dans les derniers mois, Lise et moi, on a assisté à des funérailles, une après l'autre. Là.
Hein, Lise? Tu mets le... Oh. Oui, OK. Oui, cet été, on aurait pu assister à 4 funérailles, finalement, et des personnes qu'on connaissait, on a assisté à 3, et on a vécu des émotions différentes selon les funérailles. Hein? Il y en a qui aiment. Oui, c'est notre lot, hein, en tant que Québécois. Et on a ressenti le désespoir dans certaines funérailles que tout ce que les gens avaient comme espérance, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de bien après la mort. Peut-être. Hein? Ou il n'y a rien, comme ça, je peux faire. Il est parti, mais moi, je peux faire ce que je veux, il n'y a rien. Alors, c'est le désespoir total. Il n'y a pas d'espérance là-dedans. Mais j'ai eu et on a eu le bonheur d'assister. Il y a une nouvelle expression, c'est célébration de la vie. J'ai vu ça sur Facebook et j'aime bien ça au lieu de. Et j'espère que c'est ce qui va arriver à ma mort. Ça va être la célébration de la vie que le Seigneur m'a accordée, m'a donnée. J'aimerais ça. Et j'aimerais qu'il y ait des petits objets pour représenter comment le Seigneur s'est révélé, comment il m'a accordé sa grâce. Alors, il y a une funéraille en particulier, je vais vous raconter, c'est quand on était à Mont-Saint-Hilaire, on était dans le ministère pastoral, tous les deux, il y avait un chiro et, qui nous soignait généreusement, d'ailleurs. Mais lui, il n'était pas parfait, lui non plus, mais son plus grand don, c'était lui qui guérissait les corps brisés. Son plus grand don, ce qu'il a fait, comment il a fait le plus de bien, c'est aussi, bien, en même temps, mais c'est qu'il amenait les personnes à celui qui guérit les corps brisés. Et parce que lui-même en avait eu besoin. Il avait eu besoin de rencontrer Jésus comme son sauveur et Seigneur. Parce que je ne suis pas sûre que je l'aurais connu. Il était désespéré. Et le Seigneur s'est révélé à lui. J.C. Ah oui, oui, il s'appelle. Il s'appelle Jean-Claude aussi, tu sais. Fait que là, notre chiro bien-aimé. Alors, il a fait beaucoup de bien. C'est parce que c'est. L'ambiance à ses funérailles, je pense que vous avez dû connaître ça aussi, là, quand on voit des funérailles où c'est des enfants de Dieu, on sait où ils s'en vont, on sait où ils sont, et il y a une ambiance remplie d'espoir. Wow! Là, c'est... Phew, hein? Oui, il y a de la tristesse, mais hey, on sait avec qui il est, là, j'y sais. Hein? Il est avec Jésus, il est avec le bon larron. Alors, hein? Écoute, hein? C'est... Puis comme j'ai entendu, oui, il a souffert un peu avant de mourir, mais il a vraiment, il avait cette... on peut dire aussi, oh oui, que cette pleine assurance-là, c'est, on a l'assurance que sa vie n'est pas finie, on va le revoir bientôt, et Jésus a dit, « Bon et fidèle serviteur, entre dans la présence de ton maître. » C'est ce qu'on souhaite. Hein? Et le message qui était proclamé par le célébrant à cette célébration de la vie, c'était de nous encourager à le rejoindre, à nous préparer, ceux qui n'étaient pas, je ne suis pas prêt ou tout ça, il y avait une réflexion, et d'aller rejoindre Jean-Claude, qui ont aimé de toute façon. Il y avait plein de personnes dans la salle qui l'ont aimé.
Mm-hmm. Alors, on va tous mourir. Quand? Est-ce qu'on va tous être là la semaine prochaine? Comment? Comment ça va finir? Hein? Et je pense que plus on vieillit en âge, plus la question se pose. Hein? Il y a plein de façons de mourir. Il y a des gens aux nouvelles hein, qui habitaient en Israël ou en Ukraine et... Tu te promènes dans les rues ici depuis que tout est démoli, là, ça serait terrible. Hein? Et on n'a pas beaucoup de contrôle sur... oui, on peut faire attention à notre alimentation, faire de l'exercice, mais ça s'en vient pareil. On ne peut pas changer la circonstance, le fait que je vais mourir, ni quand, ni comment. Mais je peux changer comment je vois la mort. Comment je vais faire face à cette dernière épreuve? Je crois en Jésus. Je crois sa parole. J'ai sa parole. J'ai sa promesse. Les paroles de Jésus, sa promesse. Hein? C'est écrit, il nous dit que nous ne périrons jamais. Hein? Qu'on est passé de la mort à la vie, déjà, là, qui va nous ressusciter au dernier jour, qu'on ne mourra jamais. Et finalement, dans Jean 14, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. Ça, c'est la solution. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, mes frères, mes sœurs. Jésus, hein? Il est en train de nous préparer une place, en train de te préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je vais revenir, je vais vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Amen?
Amen.
Wow?
Wow!
C'est là qu'on s'en va, là. Hein? C'est, oui, la vie sur Terre, c'est pas facile. On va retourner tantôt dans notre quotidien. Puis il y en a qui vivent des choses difficiles. Mais oublie pas, hein? Oublie pas que ta place est réservée dans le ciel. Maintenant, en terminant, comme on traverse les épreuves actuellement dans la vie, là, on va traverser la dernière de la même façon. Si tu traverses une épreuve avec foi, avec confiance, avec espérance, ben, tu te prépares à faire face à la mort. De la même façon, tu vas avoir la même paix que durant l'épreuve aujourd'hui. Alors, on vous laisse avec ce défi-là.
Hmm?
Pas tout de suite.
Oh. Ouais. Je ne pas qu'il l'oublie parce qu'il est bon.
Ouais. C'est juste qu'on peut pratiquer l'espérance à tous les jours. Pratiquons l'espérance. Hein? Exerçons, c'est comme un muscle, l'espérance. Tu as une inquiétude, tu as quelque chose qui te trouble. Dis, Seigneur, je te fais confiance. Stop, là, je ne vais pas me remplir le cerveau d'inquiétude puis de. Hein? Non. Seigneur, je choisis de te faire confiance. Tu fais 2-3 pas, puis ça revient. Non, stop, je ne vais pas là. Puis tu vas voir qu'à un moment donné, le diable stagne. Puis il va te laisser tranquille. Puis tu vas avoir la paix du Seigneur. Alors, pratiquons dans les petites choses, puis on va être fidèles dans les grandes. On va être en forme. Lors de la dernière épreuve, on va sauter de joie comme le bon larron sur la croix, qui était en fin de vie, si on peut dire. On peut sauter de joie, nous les chrétiens, en fin de vie. Hein? Élise? Oui?
OK, tu changes la chose?
Oui.
OK. Dans 1 Corinthiens 15, 19, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais si c'est dans la vie éternelle que nous espérons en Christ, nous sommes les plus heureux de tous les hommes et de toutes les femmes. » Amen.
Ils sont où les plus heureux, là? Dans l'ouest de l'île.
Dans l'ouest de l'île.
Dans où les plus heureux?
Ah,
bon, on a 2-3.
Ben oui.
Ah.
Les plus heureux, les plus heureuses.
Oui.
Oui, oui.
On est les
oui.
plus heureux.
Oui.
Anne.
Anne a fait ça.
Hein?
Oui.
On est dans le nord.
Ah oui. Dans l'ouest de l'île.
Ah, OK.
Tu viens de le dire, oui. Et la fin.
Oui. Alors, on termine avec...
Le meilleur est à venir.
Ah.
Ouh, amen.
Amen.